Vous écoutez France Culture. Comme au théâtre, par Joël Gaillot.
Bonsoir. Une émission réalisée comme chaque semaine par Françoise Camard. Alors ce soir, plusieurs spectacles ont retenu notre attention et à travers eux, c'est la question du public que nous avons voulu traiter. À qui s'adresse le théâtre et comment en faire dès lors qu'on sort des codes traditionnels de la représentation ? Pour cette édition un peu particulière de Comme au théâtre, nous avons donc décidé de nous tourner vers les jeunes spectateurs. Théâtre pour enfants, théâtre pour collégiens, théâtre qui traite de l'adolescence, les points de vue seront variés. D'ailleurs, on se dit qu'il ne manque pas d'un certain courage ceux qui décident de se frotter à la jeunesse. Parce qu'avec des enfants assis sur les gradins, qu'ils soient petits ou un peu plus grands, le risque existe bel et bien de se trouver face à des spectateurs ingérables, incontrôlables, improbables et plutôt très libérés dans l'expression de leurs sentiments. Expérience étonnante donc que celle menée par Marcel Bozonnet, ex-administrateur de la Comédie Française et qui trouve un souffle nouveau, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, seul sur scène, immergé au milieu de plusieurs dizaines de collégiens, je vous laisse imaginer ce que c'est plusieurs dizaines de collégiens, dans les gymnases du département de la Somme avec un collage de textes de Antonin Artaud et Victor Hugo intitulé « Rentrons dans les rues ». Expérience artistique et pédagogique suivie avec assiduité par les enfants et par leurs parents. Celle développée par Pascal Pollard, responsable de Escapade, festival international jeune public qui propose régulièrement à ce jeune public de s'exprimer sur ce qu'il vient de voir. Dernier projet au menu, celui visible au Théâtre du Rond-Point, avec la présentation par la troupe Flash Marionnette des Enchaînés. Une critique virulente de la télévision mise en scène par Ismaël Safouan. Un jiggle qu'on retrouve régulièrement dans ce spectacle Les Enchaînés. Cette émission trouvera sa chute avec une interview de l'enfant terrible du théâtre français que nous avons rencontré cette semaine à la Colline. Pour sa mise en scène d'un texte argentin, Michel Didim, il s'agit de lui, crée un monologue au titre iconoclaste. Le titre c'est « Oreilles tombantes, groin presque cylindrique », texte de l'auteur Marcello Bertuccio, argentin, traduit par Armando Yamas. Et avant la chronique de Jean-Louis Rivière, qui ne saurait tarder, nos invités du soir donc seront Marcel Bozonnet, Pascal Pola, Ismaël Safouan, oui, les jeunes spectateurs et le plus turbulent des metteurs en scène, Michel Didim, à 21h54. Nous irons via le téléphone à Reims où la journaliste de France Bleu Champagne, Monique Derrien, fera pour nous le point sur le festival Reims à scène ouverte. Et tout de suite, c'est le moment du billet de notre camarade Jean-Louis Rivière.
Il y a quelque temps, le Théâtre de l'Odéon a présenté pendant quelques jours un spectacle de Christophe Marthaler, metteur en scène suisse, intitulé Maeterlinck. Maeterlinck, comme l'écrivain belge mort au milieu du XXe siècle, Maurice Maeterlinck. Le titre était donc un nom d'auteur. Le programme indique que les textes sont empruntés à des œuvres de Maeterlinck, justement, et le spectacle, en français, allemand, néerlandais et anglais surtitré, et comme souvent chez ce metteur en scène Christophe Marthaler, largement musical. Ce n'est donc pas une pièce de Maeterlinck qui est mise en scène, mais l'auteur lui-même, par le truchement d'une image scénique, un atelier de confection où travaillent des ouvrières sous le regard de l'encadrement, quelques textes de l'écrivain et de longs passages musicaux. Je ne voudrais pas trancher la question de savoir s'il valait mieux monter une pièce de Maeterlinck, car la question est peut-être sans objet. Je m'explique. Quand il avait donné le Réviseur de Gogol, au début du XXe siècle, le metteur en scène russe Meyerhold disait qu'il ne mettait pas en scène la pièce, mais Gogol lui-même. Il énonçait là une vérité provocante de l'art, nouveau à l'époque, de la mise en scène. Art et vérité que Marthaler pousse à l'extrême, aux limites parfois de l'ennui que suppose en général toute radicalité. L'ennui, Vaste sujet sur lequel je ferai un jour une chronique, car c'est plus ou moins souvent le lot commun de tout amateur de théâtre assidu, et il en est de plusieurs sortes, d'effroyables ou de plaisants, il faudra développer. Mais revenons à notre paradoxe. Mettre en scène un auteur et non une pièce, vérité de la mise en scène, pourquoi ? C'est que le dramaturge est poète, que dans la disposition des scènes, le dessin des personnages, la scansion dramatique de la pièce, quelque chose de son corps propre s'est déposé, et que si ce corps me devient sensible par la grâce de la mise en scène, alors une manière de se mouvoir, de respirer, de penser, se fait mienne, manière que j'emprunte comme un costume qui transforme ma manière à moi de voir un autre, le monde ou moi-même. Je déplace mon point de vue par l'emprunt très provisoire du corps spectral du poète. Car le poète n'est pas quelqu'un qui expose, ni lui-même, ni autre chose. Il est quelqu'un qui fait voir autre chose ou lui-même. Mettre en scène, non pas l'auteur, mais le corps de l'auteur, tel qu'il a marqué un texte, une œuvre, c'est apprendre à voir par la lunette heuristique d'un artiste. Cette idée, c'est peut-être ça qui permet de comprendre cette injonction du grand metteur en scène Klaus-Michael Gruber aux acteurs de la Comédie française répétant dans les années 80 la Bérénice de Racine « Je veux entendre la plume de Racine gratter le papier ».
La magie d'exister aura passé dans une seule poitrine quand les temps se seront refermés.
Ça se passe donc, je le disais, dans les gymnases, au milieu de dizaines et dizaines de collégiens, classes de 4e et 3e. Un peu la meute quand même, et Marcel Bozonnet, tout seul parmi les fauves, nous fait un grand numéro de théâtre, circulant de Victor Hugo à Antonin Artaud, sautant, gesticulant, approchant de très près les adolescents turbulents et quelque peu inquiets. L'acteur, dans une performance inquiétante, musique sourde, fumée blanche, se pare de masques parfois très angoissants, et peu à peu, son corps, sa voix, le texte, tout s'installe et le brouhaha se calme, ramené à des histoires de Paris renversé, Paris libéré, Paris sous les pavés, Gavroche et l'art de l'acteur.
Après avoir consciencieusement l'appliqué le réverbère de la rue du Chaume, aborda la rue des vieilles ouvrières, et n'y voyant pas un chat, trouva l'occasion bonne pour entonner toute la chanson dont il était capable. Pardon. Sa marche, loin de se ralentir par le chant, s'en accélérait.
Le moins qu'on puisse dire, Marcel Bozonnet, c'est qu'ils sont réactifs, hein, les petits. Hein.
Là, c'est un, effectivement, là, c'est un petit personnage charmant, c'est un petit soldat, et donc il a quelque chose de naïf, il a quelque chose de la commedia dell'arte. Donc, au début, je pense qu'ils sont inquiets, puis quand je mets ce masque, un peu une tête de mort, mais on voit ce soldat avec une épée, un gourdin qui est au milieu d'eux. Alors, c'est ça qui les amuse, ça les amuse.
Ça les inquiète quand même.
Oui, c'est parce que le masque par lui-même est inquiétant, le masque de ce soldat. D'ailleurs, la représentation fait surgir quand même des fantômes, et ces fantômes sont des personnages de Victor Hugo qui sont eux-mêmes, qui viennent eux-mêmes de notre histoire, c'est-à-dire de ces 10 années qui ont suivi la révolution de 1830 et où il y a eu tant d'émeutes. Et où de ce texte aussi a surgi la figure de Gavroche.
Alors, on va reprendre les choses à leur commencement. C'est une drôle d'expérience, celle que vous menez, Marcel Bozonnet, qui est d'aller, d'une certaine manière, affronter ce public qui n'est pas facile. C'est-à-dire que vous vous immergez réellement au milieu des collégiens, puisque je parlais de scène, mais en fait, il n'y a pas de scène. Ça se passe dans un gymnase, il y a des chaises partout, il y a un dispositif scénographique imaginé. D'ailleurs, comme d'habitude, de manière très brillante par Daniel Jeannetot. Il est superbe, ce dispositif scénographique. Et vous voilà, planté déambulant au milieu de ces jeunes, ce qui n'est pas une chose aisée, parce que quand on les voit tous arriver en bande, on a un peu peur quand même.
Mais moi aussi.
Je veux bien le croire.
Mais moi aussi.
Plus que face à un public ordinaire dans une salle avec un rapport frontal.
Tout à fait, mais ouais. ça exige d'abord d'être dans une très grande forme physique, d'avoir bien repéré le lieu, parce que les gymnases dans lesquels nous passons n'ont pas la même acoustique. Alors c'est vrai que l'espace, il y a leurs 120 petits sièges, petits tabourets, et il y a ces 30 totems de Jeanneteau avec 15 écrans vidéo qui s'érient comme ça pour moi. L'espace. J'ai un micro HF, ça permet donc, j'ai travaillé avant l'acoustique du lieu, donc quand je me présente, quand ils entrent dans la salle et que je suis là pour les accueillir, je suis quand même très en forme et je connais bien le lieu et j'ai l'acoustique de ce lieu-là et j'ai remis mes petits tabourets et j'ai tout bien révisé avec les techniciens qui, eux, sont partis de la Maison de la Culture d'Amiens à 8h le matin.
Oui.
Parce qu'on joue dans des collèges à Amiens, mais on va plus loin dans la Somme et puis après dans les autres départements. Donc effectivement, je me les colle, je me les paye. Je ne sais pas comment vous dire. Même temps, je les vois, à travers ces masques. C'est toujours très beau, le masque, parce qu'on est dans la lumière du jour, on est dans les halos de la lumière du néon, mais je vois leurs yeux. Alors évidemment, je ne croise aucun regard, mais je les vois à travers les masques. Et à tout moment, je peux surgir.
Oui.
Je peux surgir, donc la chose est inquiétante, parce qu'ils peuvent déconner, c'est sûr, et dans le fond... C'est vrai aussi, c'est ce que je dis aux professeurs, c'est un peu le bordel, le théâtre. C'est pas fait pour enrégimenter les consciences. Donc après tout, qu'ils rigolent, que ça les amuse, je passe ensuite avec un masque de vieillard qui est terrifiant,
oui.
Avec une espèce de peau comme ça. Je viens au milieu d'eux comme un train fantôme dans une fête foraine, une espèce de vieille comme toile d'araignée qui passerait au milieu d'eux. Alors ils ont peur ou moins peur, ça change tous les jours.
Ouais, j'imagine. Ah, c'est vraiment de la matière vivante, mais on imagine aussi que pourtant eux qui sont confrontés maintenant à du cinéma ou à la télévision, à des films où ils voient sans doute beaucoup de choses, quand même malgré tout, de voir l'acteur en chair et en os comme ça, les frôler, les approcher, enfin toujours être en mesure de les toucher, on sent bien quand même que ils sont là, ils se trémoussent. Et d'ailleurs, le jour où j'ai vu le spectacle, moi, dans la banlieue, enfin dans la campagne d'Amiens, y en a une qui est tombée de sa chaise. Ouais. Je pense qu'il y a pas vraiment de hasard.
Non, ben, c'est-à-dire que si vous voulez, ce qu'on a, il faut dire que ce dispositif de Daniel Jeanneteau, c'est une installation, c'est pas un décor.
Et d'ailleurs, vous dites que vous faites une performance.
Je fais une performance, oui. C'est plus proche dans mon esprit. Dans mon esprit, c'est plus une performance. Je me sens plus comme un performeur que comme un acteur, parce que vraiment, il y a une part d'indécision, il y a une part de transformation à chaque geste qui est énorme, bien plus grosse, bien plus grande que dans un théâtre traditionnel. Alors il y a les écrans vidéo aussi qui font que ils se disent que cette affaire-là les concerne, elle est de leur temps, parce qu'il y a une musique, il y a des sons qui sont vraiment modernes, qui sont les leurs, qui sont leur univers sonore ou leur univers visuel. Mais enfin, dans la musique qu'ils entendent, qui est plutôt une longue plainte, et puis dans les images qu'ils voient, qui sont très, minimalistes.
Et énigmatiques,
de Charles Carcopino. Ils ne sont pas exactement devant la télévision qu'ils ont l'habitude de fréquenter.
Oui, ça c'est clair. Et puis ce qui est aussi nouveau, sans doute aussi pour eux, c'est cette métamorphose de l'acteur face à eux et du personnage.
Ouais, ben oui, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est vrai que je commence par un texte d'Antonin Artaud. Même pour nous, les textes d'Antonin Artaud, c'est compliqué. Quand je le dis, ce texte, je ne le comprends pas tout à fait. Il m'échappe. Donc ces enfants, qui pour certains ne sont jamais allés au théâtre, voit ce personnage énigmatique dans cette improbable salle de théâtre qui est quand même habituellement leur gymnase, plongé dans la fumée. Et donc j'ai quand même ce masque, parce qu'ils voient bien que je me maquille, je me mets du blanc, ils disent « Ah bah oui, c'est ça, c'est compliqué, mais il va se passer quelque chose. » Et puis après, je mets vraiment un masque là de Werner Straub, et ce masque de soldat, il a quelque chose, il est terrifiant, il fait peur, et si près, alors là, ouais. Ça commence à... Quelque chose se calme,
c'est évident. Ouais, ouais. Je vous propose de les écouter un peu, ces adolescents turbulents que j'ai rencontrés à la sortie du spectacle, pour comme ça, quelques paroles recueillies à la volée. Alors un peu, ça vient un peu dans tous les sens, mais c'était assez marrant de les entendre.
Les décors, ils sont rigolos, ils sont beaux. En fait.
Ouais,
c'est bien
ils
fait.
Sont les masques.
Non, mais les costumes. Ouais.
Le personnage qui veut jouer.
Comme il dit, Cooper, c'est des plaisirs.
Ah, non,
ouais, quand même.
Ouais,
quand tu vois les masques, tu te dis que ça peut pas être en vrai quand même.
Bah pour certains, c'était drôle, mais sinon, ça, pour certains, ça signifiait des choses.
Mais d'habitude, le théâtre, c'est différent parce que c'est...
Ouais, normalement...
Il y a des accessoires, par exemple, sur une scène, voilà.
Puis là, c'était vraiment au milieu,
au milieu d'un décor.
Au milieu du public, ouais. On va dire.
Ouais. Ouais, en plein cœur du public, ils se promenaient.
Ouais, ils se promenaient dans le public. Ouais.
C'est marrant. Il y a bien juste que de se rappeler de son texte, comme ça, c'est dur.
Avec les masques, il se met dans la peau du personnage, vraiment.
Mais le théâtre, c'est du dialogue, j'ai fait du théâtre, moi je sais, mais c'est pas du truc comme ça, j'ai jamais fait de truc comme ça, moi.
Il est bien rentré dans le personnage,
il manque des acteurs,
il manque des acteurs.
C'est, bah, peut-être, voilà, c'est nul, j'ai rien compris, voilà. C'est...
Je suis bien dans un souterrain, je respire, oh merveille, avec mes rythmes appropriés, et c'est moi l'acteur. L'air autour de moi est immense, mais bouché, car de toutes parts la caverne est murée. J'imite un guerrier médusé, tombé tout seul dans les cavernes de la terre, et qui crie, frappé par la peur.
Alors, Marcel Bozonnet, le théâtre, c'est des dialogues, c'est pas ça le théâtre, je sais, j'en ai fait.
Mais oui, mais c'est ça, mais de toute façon, elle a quand même raison, parce que ça, c'est les débuts du théâtre. C'est vrai que les débuts du théâtre, ça a été, on est passé du récit quand même, l'épopée, le conteur racontait quelque chose, faisait vivre les personnages. Et pour une partie, elle a raison, parce que c'est le moment de surgissement du théâtre. Et à certains moments, entre les différents personnages, entre les trois masques, on entend des cœurs. Comme on le dit, comme on le sait, quelque chose s'est détaché du compteur. Il y a eu des cœurs et puis quelqu'un qui s'est avancé au-devant des cœurs. Donc, mais c'est vrai que je me maintiens comme ça dans une espèce de naissance du théâtre qui est un rêve de mes collaborateurs et de moi pour faire ce spectacle, qui nous a aidés à réfléchir à ce spectacle, puisque le montage de texte est de Joël Hudvol.
Est-ce que vous avez pu tester ce spectacle avant de le créer, Marcel Bozonnet? Je sais que vous avez un fils de l'âge de ses collégiens. Pu l'éprouver au point... Est-ce qu'il a été votre premier spectateur?
Quand je lui ai raconté tout ça, je lui racontais ce que j'allais faire, et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup servi ensuite, parce que au début, j'avais du mal à persuader mes interlocuteurs. Je voyais que, bon, tout ça, oui, dans les collèges, d'accord, mais dans les gymnases, mais il n'y a pas de noir dans les gymnases, il n'y a pas d'acoustique dans les gymnases, il va falloir rentrer dans les gymnases, enfin, tout ça, c'était compliqué. Et je voyais les gens m'expliquer qu'ils trouvaient ça compliqué. Et la façon de dédramatiser le dialogue, je disais, ben vous, dans le fond, vous êtes un petit peu comme mon fils qui m'a dit, papa, je te le déconseille. Et en fait, il me le déconseillait parce qu'il avait peur qu'on se moque de moi, qu'on me mène la vie dure. Parce qu'il me disait, mais tu sais, ça va n'intéresser personne ne va s'intéresser à Victor Hugo, tout le monde s'en fout. C'était très drôle, quoi.
C'est terrible. Alors que bon, Gavroche, c'est une figure de petit gamin, et c'est une figure dans laquelle d'ailleurs ils se sont parfaitement reconnus, ah oui, qu'ils ont parfaitement attrapé au passage.
Ah oui, hein. Parce que là, on chahute, on donne le sentiment qu'ils chahutent, ou ils s'amusent évidemment, ils rient parce qu'il y a des choses absolument amusantes et des choses que je fais pour les faire rire. Et puis à un moment donné où tout ça devient plus compliqué, devient plus grave, et ils ne perdent rien de l'émotion que procure toujours cette histoire de cet enfant.
C'est étrange parce que, pour l'avoir vu donc au milieu de ces collégiens, je suis en train de me demander ce que ça donnerait si vous le faisiez, ce spectacle, si vous le jouiez devant des spectateurs adultes, Marcel Bozonnet. Et je me demande si finalement ce serait une bonne idée.
Ben, je vais le faire, enfin on va le faire, la Maison de la Culture va accueillir le spectacle, elle est productrice du spectacle, je suis en résidence là-bas, donc évidemment on va avoir, d'abord je le fais pour les collégiens parce que c'est une opération de la DRAC de Picardie avec les conseils généraux et puis l'Académie d'Amiens, tout ça c'est quand même des solidarités, des institutions, des collectivités territoriales, tout ça se met ensemble pour permettre de faire ce spectacle. Donc, je vais le donner et ça va permettre aussi aux élèves des classes théâtre, tout simplement, qui ne sont pas dans les collèges, mais dans les lycées, de venir à la Maison de la Culture d'Amiens. Voilà, donc
mais
je vais
le dispositif faire... sera en salle, sera exact. Le même.
Ah non, mais je ne serai pas en salle, je serai dans l'espace d'exposition, dans le hall. Ah non, je le ferai jamais en salle. Ça n'a pas de sens.
À moins de mettre les spectateurs sur la scène
oui,
avec
voilà,
vous.
Oui, voilà, c'est ça. Mais je... oui, j'appréhende le faire devant des adultes.
Oui.
Des adultes sages
oui,
qui vont pas m'embêter. Mais bon.
Ça ne peut pas non plus
maintenant ostraciser les adultes.
On prend goût au public pour enfants, enfin au public enfant, Ismaël Safouane, vous qui travaillez justement sur deux versions. On va y venir tout à l'heure, hein, les enchaîner. J'ai appris donc avec étonnement qu'il y avait une version adulte et une version enfant. On prend goût à ce public-là.
Oui, bien sûr.
Oui.
Oui, bien sûr. Et il y a parfois des certains spectacles ou certaines représentations qui sont plus agréables à jouer devant eux que devant des adultes. Cela étant, je pense que Marcel Bozonnet ou nous, on a affaire à un double, parfois une double difficulté. C'est pas seulement le public enfantin, c'est un groupe. C'est-à-dire, on a affaire. Et des fois, je me dis, vous mettez 200 plombiers, 200 psychanalystes ou 200 moniteurs de ski, vous aurez un problème qui est le nôtre lorsqu'on joue devant des collégiens ou des trucs. C'est qu'ils constituent aussi un groupe homogène, un groupe où chacun se connaît, ou en tout cas, il y a beaucoup d'ensembles comme ça, à l'intérieur de la salle. C'est parfois plus ça la difficulté. C'est parfois ça qui nous oblige à tempérer les expressions que leur âge à proprement parler, parce qu'ils entendent des grossièretés bien plus grandes à la télévision, bien entendu, que celles qu'il y a la plupart du temps dans le spectacle vivant. Donc, c'est cet effet de groupe, parfois, qui peut poser un problème passionnant, mais supplémentaire.
Oui, est-ce que ça vous... D'ailleurs, Marcel Bozonnet, vous qui êtes non seulement metteur en scène, mais aussi pleinement acteur, est-ce que ça vous dit, ça vous raconte ou ça vous enseigne quelque chose sur le rapport, effectivement, au public? Le fait, c'est très juste cette remarque, c'est un groupe, c'est un collectif en face de vous, qu'il s'agit d'une certaine manière de, non pas de diviser, mais il faut rendre à l'individu sa pleine part. C'est d'ailleurs pour ça que les professeurs sont au milieu d'eux, pour éventuellement calmer ceux qui sont un peu les leaders et qui pourraient les entraîner dans des réactions un peu trop excessives. Mais j'imagine que pour vous, c'est riche d'enseignement, cette histoire, effectivement.
C'est très profond.
Ouais.
Il se passe quelque chose de très profond, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des rires, des ricanements, des pudeurs qui s'expriment, qui sont dans le fond assez superficielles, et que tout d'un coup, le détour de la gravité d'une phrase est totalement entendu. Est totalement entendu. Et ça, c'est très impressionnant. Ça veut dire que quand on joue, on peut passer sur beaucoup de choses, à travers beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous fendez le flot. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça a été entendu, que vous ne parliez pas dans le vide, et j'ai jamais le sentiment de parler dans le vide. Et au contraire, ça muscle, c'est extraordinairement réactif, extraordinairement vivant. Moi, j'avoue que je suis, comment dire, exalté à faire ça, et je suis de plus en plus, je me prépare de plus en plus. L'enjeu me semble de plus en plus considérable, important, une chance extraordinaire à saisir pour, dans ma vie d'artiste.
Sans doute. Ça vous paraît loin, l'expérience d'administration, administrateur général de la Comédie Française, Marcel Bezonnet ?
Non.
Pourtant, vous êtes tellement loin, là, actuellement, oui, de ça, mais... dans la forme, dans la géographie, dans le rapport au public, dans
mais
le
non,
public.
Parce que si vous voulez.
Enfin,
non,
en tout cas, ça a l'air de vous rendre.
Oui.
De vous donner une forme.
Oui, mais j'ai, par exemple, vous voyez, quand je passe au milieu d'eux, puis je dis ah, fais attention, mon petit. Ce sont des choses que j'ai apprises à la Comédie Française quand j'y étais acteur avec Dario Fo. Je n'aurais jamais fait ce petit personnage de soldat. Je le tiens de Dario Fo. Eh bien, c'est bien à la Comédie Française, grâce à Antoine Vitesse, que je l'ai appris.
Et cette façon de labourer le terrain d'une certaine manière, parce que vous sillonnez la région avec derrière vous cette maison de la culture d'Amiens, mais alors brillamment dirigée par Gilbert Filinger, qui réellement fait un travail exceptionnel là-bas, il faut quand même le souligner. C'est renouer aussi avec cette idée qu'on peut avoir ancienne de la décentralisation au vrai sens du terme.
Mais c'est-à-dire que si vous voulez, on a bien vu. Moi, j'ai vu le territoire se couvrir de théâtre, hein, de maisons de la culture d'abord. Je suis rentré dans le métier en 66, l'année de l'ouverture de la maison de la culture d'Amiens, du grand discours de Malraux. Donc, je l'ai vu se couvrir de maisons de la culture, de centres dramatiques nationaux, ensuite de scènes nationales, de scènes conventionnées. Et quand même, quand on ouvre le journal tous les ans, on s'aperçoit que les pratiques culturelles des Français, elles restent, comment dire, la population qui va au théâtre augmente, mais pas de façon énorme. Et il faut comprendre que là-bas, ces enfants qui sont là, pour qui je joue à 3 heures. Ils sont souvent venus en autocar. Le matin, ils sont partis vers 7 heures pour être à 8 heures au collège. Et qu'à 4 heures, ils vont retourner en autocar dans ces villages. Alors l'autocar ne va pas repasser vers 7 heures pour les emmener à Abbeville, à Doulan, à Creil. Bien sûr, si vous voulez, que les directeurs de théâtre font le maximum qu'ils peuvent faire. Mais ils restent tellement, de tréteaux à transporter quand même pour aller auprès du public. Et moi, j'ai fait beaucoup de choses et finalement, c'est ça que j'ai eu envie de faire.
Mais écoutez, visiblement, vous n'êtes pas passé à côté. Merci Marcel Bezonnet. Je rappelle que ce Rentrons dans la rue, donc, va se jouer à Amiens, à la Maison de la Culture, du 15 au 19 janvier. Et ensuite, ça repart, m'avez-vous dit,
effectivement, dans
l'Oise, pareil.
Et puis dans l'Aisne.
Et dans l'Aisne, dans les gymnases, au milieu des collégiens.
Voilà.
Merci.
Extrait donc
On essaiera d'en entendre un deuxième au cours de l'émission, extrait des Enchaînés, donc dans la version Philippe Dorin, Ismaël Safouane, qu'on voit actuellement au théâtre du Rond-Point. Alors c'est à vous, entre autres, Pascal Pola, qu'on doit aussi de pouvoir voir ce spectacle, puisque c'est vous la grande organisatrice de Escapane, ce festival international jeune public qui, depuis le 10 novembre et jusqu'au 30 décembre, permet à des enfants et à de jeunes adolescents d'assister à des spectacles qui leur sont adressés un peu partout dans les lieux parisiens. Alors j'ai pu en voir un il y a quelques semaines au Théâtre des Récollets, à la Chapelle des Récollets plus précisément. Et actuellement donc il y a le spectacle d'Ismaël Safouane et ça n'est pas tout puisque Escapade c'est des spectacles de théâtre mais c'est aussi de la danse et aussi de la musique, c'est des concerts et le tout est cette année parrainé par Nancy Houston. Vous en êtes à la 5e édition. On peut tirer déjà un premier bilan, j'imagine, au bout de 4-5 ans d'existence, Pascal Pola.
On peut tirer un bilan positif, positif. Oui, un très positif, ouais. Par rapport au public, par rapport à la diversité aussi des partenariats qu'on a atteint là cette année, avec 12 lieux tout de même, 10 lieux parisiens.
Les théâtres sont preneurs.
Les théâtres sont preneurs, les lieux de musées sont preneurs également, puisque la caractéristique d'Escapade, c'est ça, c'est d'aller un peu partout, d'être à l'image de Paris, en fait. C'est ce que je souhaitais, c'est que le festival soit l'image de Paris, de la diversité de Paris, donc des lieux de musées, des centres culturels étrangers, la Chapelle des Récollets, comme vous l'avez évoqué, et puis des lieux alternatifs comme le Point Éphémère, et puis des petits lieux comme des centre d'animation. Voilà, parce qu'on ne travaille pas de la même façon avec le centre, l'espace GMAP, qu'avec le théâtre du Rond-Point, parce qu'on ne travaille pas de la même façon en direction du public. Et puis, c'est aussi de faire découvrir, alors, de créer une dynamique de circulation de public. Ça, vraiment, je souhaitais que le public découvre aussi des lieux, des lieux de patrimoine ou des lieux de grand théâtre, voilà.
Mais ce public, Pascal Pola, comment vous le cooptez? Est-ce que ça passe par... comment il vient jusqu'à vous, ce public de jeunes enfants?
Alors, évidemment, il y a des séances scolaires, on en a parlé là beaucoup, évidemment, ça c'est absolument essentiel, et des séances tout public. Et ben on met ensemble nos forces, hein, entre le théâtre ou le lieu d'accueil, et puis notre force de communication qui est encore légère, mais qui est de plus en plus importante, pour faire venir ce public-là. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, j'arrive avec une direction artistique, avec des idées, hein, de programmation, j'ai ma ligne de programmation, je vais voir le partenaire, mais toujours dans l'écoute. J'écoute beaucoup le partenaire, j'écoute beaucoup son terrain, mais qu'il soit musée ou qu'il soit le Point Éphémère, qui est un lieu de musique. Et puis, on essaye, on peut aussi inventer des choses ensemble en termes de public, en termes d'adresse. Comment on va chercher ce public-là? Quand on travaille avec le Musée des Arts Décoratifs, ma surprise a été grande de voir combien ils ont besoin aussi de faire venir les familles au musée. Donc, c'est un biais. C'est un biais.
C'est par les enfants qu'on attrape les parents, en fait.
Absolument aussi. Absolument.
Et alors, les enfants, justement, c'est pas du tout pareil de s'adresser à un public d'adultes qu'à un public d'enfants, bien évidemment. Mais même au sein des enfants, un enfant de 4 ans et un enfant de 6 ans, ça n'a rien à voir. Un enfant de 6 ans et un enfant de 10 ans, ça n'a encore rien à voir. Donc, comment vous établissez, de quelle manière vous arrivez à établir la distinction,
la tranche d'âge.
Qui ça s'adresse, à partir de quel âge?
Déjà, c'est la compagnie qui le sait. Et après, donc, on respecte beaucoup les vœux de la compagnie. Par exemple, les Enchaînés, c'est à partir de 10 ans, c'est parfaitement à partir de 10 ans.
Dans la version pour enfants.
Voilà. Nous, on dit tout public. On dit tout public à partir de.
Oui.
Je défends vraiment le spectacle jeune public, tout public. C'est-à-dire que j'essaie dans ma programmation de faire partager autant le spectacle par les adultes que par les enfants. Je crois que c'est un moment aussi de rencontre, de partage très important. Et voilà. Je crois que le bon spectacle, c'est du bon spectacle.
Oui, on est assez d'accord, effectivement. Mais vous avez eu aussi cette, moi je trouve, très bonne idée à la fin des spectacles de faire parler les enfants avec des professionnels qui viennent, sauf que vous demandez aux parents de partir à ce moment-là.
Oui, alors là, c'est parce qu'on s'est rendu compte que lorsque les parents sont là, la parole de l'enfant n'est pas aussi libérée. Et donc, on s'est dit, ben, on va leur donner l'espace de libre parole à ces enfants pour qu'ils s'expriment, qu'ils n'aient pas le regard du parent qui est tout de suite là, attentif. Donc, on a eu cette idée. C'est fort bien pris d'ailleurs par les parents parce qu'on s'en occupe. Après, on les laisse pas non plus tout seuls. On s'en occupe, on leur explique pourquoi on fait ça. Ils ont besoin d'ailleurs d'avoir cette explication, les parents. Mais comment ça? On nous laisse pas entendre nos enfants. Et non, c'est pour vraiment laisser la libre parole et l'échange avec le ou la journaliste qui mène cette rencontre.
Mais il y a un travail de préparation de l'enfant. Je me souviens de ce spectacle auré-collé où la metteur en scène m'a dit, parce que je leur avais dit aux enfants, mais pourquoi vous montez pas sur le plateau pour les bousculer un petit peu? Elle m'a dit, mais n'allez surtout pas leur mettre des idées pareilles dans la tête, parce que ça peut arriver qu'un enfant, évidemment, il connaît pas la loi, lui, du quatrième mur, donc s'il décide qu'il va aller voir tel élément de décor pendant le spectacle, il y va, quoi.
Un accueil, vous voulez parler d'un accueil?
De préparation, de mise en condition.
De préparation, alors tout dépend si on parle de scolaire. On n'accueille pas de la même façon le public scolaire et le tout public. Je suis pour un accueil, je suis pour vraiment un accueil du scolaire, ça assurément. Pour les mettre en état simplement d'écoute. Pas de dire il est interdit de, vous ne faites pas ça, vous bougez pas. Au contraire, moi je leur dis vous bougez, vous ressentez, vous avez de l'émotion. Et vous réagissez bien évidemment, mais en totale adéquation avec le spectacle. Donc soyez dans l'état d'écoute. Je dis beaucoup ça et puis je dis souvent aussi, mais même en tout public je le dis aussi souvent, je dis le spectacle vivant, ça se fait à deux. Mieux vous serez vous et mieux les comédiens seront. Je crois que c'est vraiment un échange. Et c'est une formule qui fonctionne assez bien, autant auprès des petits qu'auprès des adolescents. Ou alors là, évidemment, là je sors d'une journée où on a accueilli 70 loulous, grands ados du 10e et 19e arrondissement pour un spectacle pour adolescents. Là, on les a pris classe par classe.
Vous êtes fatiguée ce soir.
C'est du boulot, mais c'est beaucoup. Moi, Marcel le disait tout à l'heure, c'est de l'énergie positive. Ils nourrissent énormément.
Ah oui, c'est ce qu'on sent, ça, c'est
une énorme énergie positive.
Ils donnent, même quand c'est dans le gloussement, même quand c'est dans le ricanement, c'est vrai que c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont pas amorphes. Voilà, ça c'est quand même très agréable. Ils existent comme public. Beaucoup aimé ça dans tous les cas de spectacles que j'ai pu voir, aussi bien avec vous, Marcel Bozonnet, que ceux que j'ai pu voir dans le cadre du festival.
Ils sont pas amorphes et ils sont
pas empathiques.
Et ils sont sans code aussi. Et quand vous dites ils sont bons, ils donnent, c'est parce qu'on leur donne aussi. Et ça, ils le sentent quand on leur donne. Et quand on leur donne de la qualité, ils le voient aussi tout de suite.
On va écouter un deuxième extrait du spectacle Les Enchaînés dans la mise en scène d'Ismaël Safouane.
Ça va être du sport. Net. Service. 40 partout. Avantage. Balle de match. Jeu. 1000.
Dis Patrick, tu pourrais pas dire à tes gars de resserrer le jeu? Je les ai pas dans le cadre.
Ah, bon bah resserrer le jeu les gars, hein. On resserrer là. Quinze zéro, 15-30, net, service, 40 partout, avantage, balle de match, jeu, 1000.
Hey Patrick, tu pourrais pas resserrer encore un peu? Ça rentre pas dans le cadre, je te dis.
On va resserrer encore les gars, oui, resserrer.
Flash marionnette, donc Ismaël Safouane, c'est un extrait des Enchaînés qu'on peut voir au rond-point jusqu'au 30 décembre. Il est marqué tout public à partir de 10 ans. Mais vous avez vous-même confessé à la fin du spectacle, puisque je suis restée un peu à la rencontre après, que effectivement, ça c'était ce qu'on avait vu, c'était la version pour adultes. Légèrement édulcorée, la version pour enfants. Il y a quelques gros mots qui sont pas, quelques scènes qui sont éliminées.
Oui, alors. pour faire du politiquement parlant, je dirais plutôt atténué que édulcoré.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est plus, encore une fois, je crois vraiment lié aux effets de groupe, cette atténuation. Parce que, encore une fois, les quelques gros mots, disons-les, connasses ou autres, qui peuvent être dits dans la séance pour adultes, ne sont pas de ceux qui effrayent un enfant de nos jours, de 10 ans ou ailleurs. Il suffit de voir la moindre des séries qu'il peut regarder à toute heure. Donc, c'est un peu plus pour ça. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a une espèce de lecture à deux niveaux du spectacle, qui n'est pas forcément la même pour un adolescent que pour un enfant de 10-11 ans, ou bien sûr pour un adulte. Et Philippe Dorin, l'auteur, je tiens quand même à préciser que c'est lui qui a écrit avec nous ce texte, pour nous ce texte, a tenu à marquer quand même sur deux ou trois scènes une différence assez nette entre ce qui pouvait être offert aux adultes, qui dans ce cas-là est beaucoup plus nettement second degré. Mmh. Voilà, il y a un niveau de lecture qui est sûrement un peu plus accessible aux adultes. Et donc voilà, sur deux ou trois scènes, il peut y avoir une différence assez notable d'une version à l'autre.
Et c'est vrai aussi qu'avec la marionnette, on peut aller très très loin dans ce qui est montré.
Ben, on peut aller infiniment loin. Hein. Je veux dire, par exemple, le premier extrait que vous avez passé, on l'entendait Alexandrie Alexandra. Alors, on est ici, c'est de l'audio, donc on ne voit pas. Mais sans en dire plus, je dirais simplement que c'est un singe, un petit singe en survêtement blanc avec un bazooka à la main qui chante, oui, Alexandrie Alexandra. Ce que ne laissait pas forcément entendre la trace auditive seule. Donc la marionnette, c'est ça. C'est ça aussi qui a intéressé Philippe Dorin. C'est qu'il a non seulement la possibilité, avec quatre comédiens, d'avoir 30 personnages. Il a aussi celle d'avoir... Il est venu en répétition avec nous une partie du temps et il a vu un chien, un très joli chien qu'on avait fabriqué pour un précédent spectacle qui s'appelait Les Pantagruéliques, d'après l'univers de Rabelais. Ou non, un roman de renard, je crois, plutôt. Mmh. Et le voyant traîner là, il a dit « Qu'est-ce que c'est ?» On a dit « Ça s'appelle un rebut. » Et ce chien... il l'a repris et il est devenu dorénavant le héros positif, d'une manière tout à fait inattendue, désenchaîné. Donc ça a été un aller-retour comme ça, et c'est aussi là où il s'est régalé, c'est-à-dire qu'est-ce que lui permet la marionnette, que lui permet pas, ou en tout cas avec d'autres stylisations à ce moment-là, le théâtre, l'écriture pour acteur. Et il se retrouve ainsi avec quelques singes, avec quelques chiens, avec quelques personnages qui volent, avec aussi cette possibilité de pouvoir faire rentrer sur un plateau 8 personnages d'un coup d'un seul, ce qui dans l'économie actuelle n'est pas toujours si simple au théâtre.
C'est certain. Est-ce que la dimension entre guillemets pédagogique, Pascal Pola, du spectacle vous a intéressé en l'occurrence? Parce que c'est une critique de la télévision plus que virulente, très féroce. Et puis ce qu'il y a de très bien au fond, c'est que vous n'y allez pas de main morte, hein, donc vous êtes radicalement contre. Et c'est une suite de petites scénettes, de petites séquences où sont mis en place les éléments de la télévision que vous décryptez à la manière que pouvait faire en son temps Schneiderman dans Arrêt sur image. D'ailleurs, c'est un tout autre niveau, un tout autre endroit, hein, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Cette vertu-là d'initiation.
La dimension pédagogique, non, je la retiens pas, je la retiens pas du tout. Je retiens la dimension artistique de tous les spectacles.
Oui.
Et à travers le geste de l'auteur, à travers le mot de l'auteur, qu'il soit auteur, écrivain ou chorégraphe ou musicien, si effectivement il y a un message, il y a quelque chose qui provoque la réflexion, l'échange, l'émotion, oui, bien sûr. Et ce spectacle, Les Enchaînés, moi je l'ai vu à la création en janvier dernier, j'étais très 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 surprise de ce que cela provoque chez l'ado. Je dirais vraiment l'adolescent en particulier, et on l'a vérifié la semaine dernière avec des groupes de grands ados. Mmh. Ben, ils en prennent quand même, ils se prennent une claque, hein, ils se prennent une claque. Donc forcément,
il est question du spectateur, évidemment.
Il est question du téléspectateur.
Du téléspectateur, pardon.
Il est question de ce qu'ils vivent au quotidien, des scènes de chez eux, des parents qui regardent la télévision et qui ne se parlent plus, et puis d'eux-mêmes qui regardent la télévision. j'étais très très surprise de la, du retour et de ce que ça provoque chez eux. Ah bon, on est si con que ça. Donc ça qui m'intéresse. Et que ça provoque aussi l'échange entre les adultes, les parents et les enfants aussi. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans tous les spectacles que j'essaye de programmer.
Si je peux ajouter une chose sur le caractère pédagogique ou non, c'est vrai que ça ne l'est pas dans le sens où rien, et chez Dorin c'est comme ça toujours, rien n'est explicite. C'est-à-dire c'est implicite ou c'est elliptique. Il y a un moment donné où le spectateur va devoir faire un effort, va devoir activer quelque chose qui s'appelle analysons. Alors souvent les enfants, lorsqu'on les interviewe après, comme vous le faites, on se rend bien compte que sur certains textes ou certains spectacles qui actionnent beaucoup le second degré, la verbalisation n'est pas là, elle n'est pas encore là. Mais pour moi, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas compris. Simplement, pouvoir dire tout de suite derrière un spectacle l'analyse qu'on en aurait faite, alors qu'il s'agit avant tout d'une réception comme ça, plutôt sidérée en l'occurrence, c'est impossible. Mais moi, je crois qu'ils comprennent beaucoup de choses, et je crois qu'elles sont fortes, ces choses-là, parce que précisément, ce n'est pas de la pédagogie que nous leur faisons, c'est de la... Voilà, on vous donne de la critique, certes radicale, on vous donne des mots très forts, on vous donne peut-être même une certaine violence, beaucoup de radicalité. À vous, après, d'en découvrir ce qui en fait sens. Peut-être, effectivement, comme dit Pascal Paulin, que par moment, ils se disent est-ce que nous sommes cons à ce point, puisqu'il n'y a absolument aucune...
Non, mais c'était mignon, parce qu'il y avait un petit garçon de 10 ans qui, au bout d'à peu près 20 minutes, a fini par lâcher que lui, quand même, il regardait un peu les séries télé, quoi. Alors que les autres, jamais ils ne regardaient la télévision. Ils zappaient, ils regardaient peut-être un peu le journal de 20h, mais jamais, au grand jamais, ils ne regardaient la télévision. Ce qui, à mon avis, était quand même pas tout à fait juste. Mais c'était drôle, cette petite voix qui, à un moment donné, s'est élevée et a dit moi, je regarde un peu les séries. Ouais. Bon, celle-là. Et puis tous les autres les connaissaient, malgré tout. Hein.
Oui, vous êtes rendu compte au fur et à mesure de l'entretien que tous les autres les connaissaient parfaitement.
Tous les autres les connaissaient quand même.
Cela dit, nous sommes donc au rond-point, mais c'est la première fois que je vois qu'il y a une telle différence entre ce que peuvent dire des enfants de Paris ou de la région parisienne et des enfants de province, puisque c'est là qu'on a créé à Strasbourg, on a beaucoup tourné 80 fois. En province, la plupart du temps, ou en région, pardon pour le mot de province bien sûr, les enfants disent très souvent qu'ils regardent beaucoup la télévision, ils en sont très fiers, et on a comptabilisé que la moyenne, et on a rencontré des centaines d'enfants avec qui on a parlé, de postes par foyer, ça pouvait être 3 ou 4. Et ça m'a troublé, j'ai pas encore d'explication sur la chose, le fait que vous les entendant parler avec vous l'autre jour, ils étaient plutôt dans une situation de retrait, de cacher les choses, et j'ai trouvé, moi comme vous, assez émouvant cet enfant qui dévoilait, au fond, la vérité.
C'est un peu caché, mais
allez savoir pourquoi les petits Parisiens seraient un peu plus comme ça, prudents quant à leur addiction télévisuelle.
Oui, on peut pas bien pourquoi. Alors, ces enchaînés, donc, compagnie Flash Marionnette de Philippe Dorin, mise en scène Ismaël Safouane, c'est au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 30 décembre, et le Festival Escapade, Festival International Jeune Public que vous avez initié, que vous coordonnez, donc Pascal Paulin, c'est aussi jusqu'au 30 décembre. Pour en savoir un petit peu plus, on peut aller sur le site internet www.erdejeu.fr. Pendant ce temps-là, renversant les perspectives et entrant au cœur du système, François Vastiaud, metteur en scène, et François Bégodeau, auteur, propose à Théâtre Ouvert une mise en espace de Entre les Murs, texte de l'auteur qui a été prix France Culture l'année dernière, adapté par le metteur en scène et qui nous plonge à l'intérieur d'un lycée de banlieue. C'est une mise en espace qui fait suite à un travail mené par Vastiaud au cœur de cette formule qui s'appelle l'EPAT, que Lucien et Micheline Atoun ont inventé à Théâtre Ouvert. L'EPAT, école pratique des auteurs de théâtre, permet de vérifier la solidité d'un texte justement au plateau. Le résultat vaut vraiment le détour. Dépêchez-vous, il n'y a plus que 2 dates, mardi et mercredi, c'est à Théâtre Ouvert. On espère que ça donnera lieu à une mise en scène Entre les Murs de François Bégodeau, version scénique de François Vastiaud. Et pendant ce temps-là, à quelques stations de métro seulement de Théâtre Ouvert, Michel Didyme, grand défricheur de textes contemporains, s'est attelé à la mise en scène d'un monologue d'un auteur argentin, traduit par Armando Llamas. L'auteur s'appelle Marcelo Bertuccio et son texte, Oreilles tombantes, groin presque cylindrique, est un récit cocasse et horrifique sur la vie d'une femme dont on ne sait si elle souffre de paranoïa ou si elle est dans le vrai quand elle se dit victime. C'est Catherine Matisse qui interprète le rôle rôle de cette femme argentine convaincue que l'ennemi est à ses portes en train de lui tuer ses cochons. L'expression est d'elle, « me tue mes cochons ». Étrange texte donc au sujet duquel Michel Didim, enthousiaste, nous a livré quelques clés d'entrée après la première. On l'écoute.
Oreille tombante, groin presque cylindrique, était au départ un projet qu'on avait réalisé pour France Culture. C'est à la demande de France Culture que j'avais fait venir Marcello Bertuccio en France. Et on a fait une résidence à l'abbaye des Prémontrés avec Armando Llamas. Et puis un second temps de travail où Marcello a résidé une quinzaine de jours chez Armando. Et ici, dans le 20e arrondissement, ils ont travaillé ensemble une quinzaine de jours sur l'aboutissement donc de la traduction. Ils se sont mis d'accord sur les équivalences parce que la traduction, ce n'est pas simplement un transfert de mots, mais c'est surtout, il me semble, un transfert d'univers. Et donc, il y avait des correspondances à trouver dans la langue française. Et Armando y a mis beaucoup de lui-même, c'est vrai. On a eu envie, avec Catherine Matisse, de poursuivre l'aventure parce qu'il y avait, je pense, pour le public, la possibilité de vivre, non pas une catharsis dans laquelle on serait en quelque sorte lavé par le travail de l'actrice de ses propres problèmes psychologiques, mais quand même une façon de pouvoir envisager sous un angle, disons, politique, parce que je crois que c'est une œuvre éminemment politique, la folie, et notamment, en tout cas, le glissement progressif de la raison dans un univers donc très macho, un univers argentin, fortement marqué par la dictature, où une femme est aux prises, d'une part avec sa solitude, et d'autre part à une sorte de complot qui la cerne, un complot qu'elle imagine ou qui est réel. C'est une œuvre très ouverte là-dessus. On se demande, on n'arrête pas d'osciller entre est-ce une pauvre victime ou est-ce quelqu'un qui s'invente totalement, qui se victimise personnellement. C'est la question que je crois qui agite constamment le public. C'est un endroit où on le met au travail. Il y a un endroit où il y a une libération que Marcello Bertuccio a éminemment bien pesée et sentie. Et dont je ne suis pas le premier à le découvrir, puisque pour ce texte-là, il a reçu le prix du syndicat de la critique en Argentine. Il était couronné de nombreux prix. J'avais, lors du travail Tintas Frescas, eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, d'abord au Mexique, ensuite à Buenos Aires. Et c'est dans la complicité et puis dans la vérification que j'ai pu faire du travail que ce texte opérait sur le public argentin que j'ai pris la décision d'abord de le faire venir pour la traduction pour France Culture, puis ensuite de poursuivre l'aventure ici au Théâtre National de la Colline. Voilà, je crois que c'était important de faire exister pour la première fois en France cet auteur argentin.
Disons que ce qu'il y a aussi de très original et sans doute d'assez novateur dans la plume de cet auteur, Marcello Bertuccio, c'est qu'il s'agit d'une femme. Cette conscience-là qu'on pourrait avoir trouvée, croisée aussi bien chez Shakespeare, je pense spontanément comme ça à Hamlet, c'est aussi quelque chose qui m'a rappelé ces drôles Eschyle et les Erinnyes, à la fin les chiennes furieuses qui viennent obséder au reste. C'est pas autre chose au fond que ce cri qu'on imagine de ces cochons que cette femme dans le texte est censée avoir et qu'on serait censé être en train de lui tuer. On n'arrête pas de répéter de manière très obsessionnelle « il me tue mes cochons ». On sent bien que c'est bien la métaphore d'autre chose, cette histoire de cochons qui sont en train d'être tués.
Tout à fait. En même temps, on assiste, impuissant, à son aliénation totale. Elle est totalement possédée par ses démons internes et on est là en train de se demander si elle a peut-être tué quelqu'un, elle a peut-être commis un crime effroyable, elle a peut-être fait une chose qui finalement a bouleversé son intimité, ou elle n'est pas qu'une victime, elle est peut-être aussi quelqu'un qui a agi de façon inconsidérée, ou pas. Voilà, c'est cette balance-là qui est intéressante à vivre.
D'ailleurs, vous émettez des signes qui troublent dès le départ et quand on la voit arriver, Catherine Matisse, sur le plateau de théâtre, la première pensée qui m'est venue, en tout cas à moi, c'est Hitchcock, c'est Psychose. Et c'est sans doute dû à la perruque qu'elle porte. Il y a quelque chose de la tueuse diabolique dans sa façon d'être coiffée. Effectivement, elle ne serait pas que la victime, elle pourrait être aussi la manipulatrice. Mais la question que je me posais en voyant le spectacle, Michel Didim, c'est jusqu'à quel degré de proximité avec le réel on peut mettre en scène une conscience en proie à une forme de folie. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ?
Je pense pas qu'il y ait limite, ça dépend en fait de la capacité des acteurs à autogérer finalement le glissement progressif dans les zones d'ombre. Je ne pense pas qu'il y ait de limite. Bien entendu, il faut des gens extrêmement sains de corps et d'esprit. Et bien entendu, avoir des gens dans la capacité de laisser cette carapace, ce masque dans la salle de maquillage. Une fois qu'on a, de démaquillage plutôt, hein, et pas emporter ça à la maison. Mais effectivement, ça demande un gros travail personnel à l'artiste, à l'interprète, qui d'ailleurs a besoin d'un petit choc pour revenir à elle. D'ailleurs, c'était le sens même des applaudissements à l'époque antique. Les spectateurs applaudissaient pour dire « reviens à toi ». Au spectateur. Le spectateur disait, pardon, reviens à toi, à l'acteur, reviens, reviens, reviens. Voilà ce que voulaient dire au départ les applaudissements. Après, bien entendu, le sens des applaudissements a glissé, mais c'est son sens initial. Il permettait à l'acteur de quitter le masque et d'émerger tout d'un coup, de réaliser que, voilà, on était dans le réel, on n'était plus dans la fiction. Donc, heureusement, bon, il y a eu assez d'applaudissements pour faire revenir Catherine Matisse à elle. Et je crois qu'on a longuement travaillé. On a travaillé plus de 2 mois et demi pour pouvoir lentement mais sûrement maturer les choses, pouvoir être aussi...
Parce qu'elle tient, elle tient la sauvagerie, hein. Elle tient la distance, je veux dire, elle tient la sauvagerie à distance, en permanence. On sent bien qu'il n'y a pas de lâcher prise.
Oui, et elle doit à la fois être totalement, malgré sa perruque de panthère, être une victime potentielle et en même temps celle qui pourrait éventuellement dominer la situation et avoir été celle qui aurait peut-être, ayant commis l'irréparable, celle qui finirait par jouer la victime, ne l'étant pas.
Voilà, Oreilles tombantes, groin presque cylindrique, texte de Marcello Bertuccio, mise en scène de Michel Didim avec Catherine Matisse. C'est à la Colline, au Petit Théâtre, jusqu'au 21 décembre. Et tout de suite, nous prenons donc la direction de Reims, où notre correspondante de France Bleu Champagne, Monique Derrien, nous attend au téléphone et on va porter en sa compagnie un regard sur le Festival Reims à scène ouverte, qui ferme d'ailleurs ses portes dans 2 jours. Bonjour Monique Derrien.
Bonjour.
Alors, Ce festival
consiste à se délecter du plaisir des mots. Voilà le propos des artistes qui viennent à Reims pour lire ou chanter et le public les rejoint en masse. Le festival à scène ouverte propose une 60aine de rendez-vous partout dans la ville avec les plus illustres ou d'illustres inconnus. Jean-Louis Trintignant un soir dans la grande salle de la Comédie pour lire le journal de Jules Renard et quelques heures plus tôt les stagiaires d'un atelier d'écriture dans une maison de quartier. Ils étaient illettrés ou presque et les voilà jouant la pièce qu'ils ont coécrite avec Édipe Alarot, devenu leur ami. Participe à cette entreprise Patrice Géraud pour la 3e fois cette année avec une lecture de Marguerite Duras, sans doute comme le souhaite Emmanuel de Marcy-Mota, le directeur du CDN de Reims, sans doute pour se laisser transformer par la poésie, aider les gens à se laisser transformer par elle. Tout ça fonctionne à merveille, mais par quel miracle ? Pourquoi les spectateurs viennent-ils par milliers honorer ces multiples invitations ? Texte en jeu, texte en voix, chantier ou causerie, tout est possible, pourvu que l'enjeu soit celui de la parole, du langage et du poème. Voilà donc le secret. Le théâtre s'arrête pendant 9 jours à Reims. C'est un choix délibéré pour permettre ces rencontres avec les plus grands, sortir d'un monde formaté, dit encore l'artisan du festival, parce que la poésie interdit le formatage. La programmation, du coup, peut tout se permettre. Elle invite à satiété les œuvres et les artistes. Oscar Wilde ou Primo Levi, René Char ou Roberto Veracini, Lionel Rey ou Benoît Doremus, Anne Delbé ou Romane Boringer. Pour diversifier, provoquer un public de tous âges, apprivoisé et désormais sans complexe. En 6 ans, Emmanuel de Marcy-Mota a doublé la fréquentation de la Comédie. Il vient même de faire ouvrir une nouvelle salle de théâtre à Reims. C'est donc possible. Il prendra les commandes du théâtre de la ville pour la prochaine saison. C'est bien dommage pour la Champagne.
Et c'est bien heureux pour le théâtre de la ville. Merci Monique Derrien. Je rappelle que ce festival Reims à scène ouverte se termine le 19 décembre. Une annonce avant de se quitter, à Chaillot, c'est le retour de Robert Lepage, concepteur et metteur en scène de Le Projet Andersen, une aventure en 2h10 qui voit un Québécois débarquer à Paris, croiser plusieurs personnages, décors totalement virtuels et prestations exceptionnelles de l'acteur Yves Jacques, qui assure à lui seul tous les rôles. C'est un spectacle étonnant, fluide, drôle et très différent de ce qu'on peut voir à l'ordinaire. Le Projet Andersen, c'est à Chaillot, salle Jean Villard, jusqu'au 18 décembre.
Antoine Vitesse, écrit sur le théâtre, tome 2. Faire du théâtre aujourd'hui, c'est répondre à la question posée depuis finalement pas très longtemps en France, pour la première fois par Jean Villard. Quelle forme trouver, exprimant le rapport nouveau que nous cherchons avec le public.
Et c'était Lazare Herson-Macarel qui disait du Antoine Vitesse. Comme au théâtre, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, émission spéciale et exceptionnelle consacrée entièrement à Joël Pommerat, auteur-metteur en scène. Merci à l'équipe, Catherine Parent, Françoise Camard. Et merci à la technique, Tanguy Lecorneau ce soir aux manettes.